Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma et aujourd'hui nous allons parler de films qui sont en salle depuis le 13 décembre, c'est le cas pour vous messieurs, chacun un film.
Donc moi je vais vous parler de Survival of the Kindness de Rolf de Heer.
Toi Guillaume, tu vas nous mettre la frousse.
Ben oui, avec Follow Dead, un film d'horreur qui se veut un peu atypique.
Moi, je vous parlerai de Leave the World Behind de Sam Esmail. Ça, c'est sur une plateforme. Ça fait partie des films qui cartonnent sur Netflix. Et ce sera l'occasion de jouer à un blind test spécial sur les films qui traitent de la cybersécurité. Il n'y en a pas tant que ça, même s'il y en a de plus en plus. Et puis, je vous parlerai de deux dessins animés aussi qui sont en salle depuis le 13 décembre, Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, puis Les Inséparables. Mais nous commençons avec Survival, enfermé dans une cage et abandonné dans le désert, une femme parvient finalement à se libérer et tente de retrouver son chemin, c'est Survival of Kindness.
Ben oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Absent des écrans depuis plus de 10 ans, Rolf de Heer revient donc avec un nouveau long-métrage très attendu, qui a été présenté d'ailleurs cette année à l'étrange festival, The Survival of the Kindness, qui donc succède à Charlie's Country, le beau film avec David Goulpilil, qui est l'acteur aborigène le plus célèbre, décédé depuis, pour ce qui ressemble à nouveau à une sorte de road movie, une quête initiatrice envisagée sur un registre différent, bien que toujours aussi politique et radical. Dans un désert aride, brûlé par le soleil, des corps indéterminés mais familiers pour les amateurs de cinéma australien, une jeune femme est enfermée dans une cage par des bourreaux masqués. Pourquoi? Alors autant vendre la mèche, nous ne le saurons jamais et ça n'a au fond aucune importance. Alors cet aspect abscon et puis un peu arbitraire participe d'emblée à l'étrangeté du film qui ne ressemble à pas grand-chose de connu. Cette femme observe l'immensité du paysage à travers les barreaux. Rolf de Heer alterne entre des plans dansants magnifiques et des gros plans sur les insectes, faune de cet environnement qui s'annonce hostile. Au bord de l'épuisement, alors totalement isolée dans cette zone aride, sans eau et nourriture, elle n'a qu'une seule alternative, s'en sortir. Elle se libère de cette prison afin de prendre en main son destin. Et ainsi, elle commence un voyage étrange et inquiétant, une errance au cœur d'un monde brutal jusqu'à un épilogue qui fait froid dans le dos. La qualité première du film est de se livrer tel quel, sans explication et redondance, dans une temporalité non définie. Est-ce un récit d'aventure picaresque, un film historique revenant sur une période sombre de l'Australie ou une dystopie reprenant certains motifs visuels et narratifs à la saga culte de Mad Max? Alors ne cherchez pas à tout comprendre et laissez-vous transporter par ce film aux confins des genres. Survival of the Kindness peut se lire comme une allégorie poignante et pessimiste sur une humanité qui a littéralement pété les plombs, oublié son essence, la raison même de son existence pour s'adonner à la barbarie. Alors le parcours initiatique de l'héroïne est un véritable chemin de croix, un calvaire de plus en plus effrayant sur notre condition. Alors pris dans une spirale de violence, la beauté visuelle du film contraste avec la noirceur d'un propos lucide, ce qui offre quand même une respiration nécessaire pour supporter cette escalade vers la déshumanisation de la population. Alors cette appréhension un peu amère de l'état du monde, sur un mode on va dire métaphorique, est un peu en contradiction avec le cinéma habituel du cinéaste qui n'a jamais réfuté la part sombre de ses personnages, la cruauté du système, mais toujours dans une optique de résistance, d'espérance. Son chef-d'œuvre, Bad Boy Bubby, qui a déjà 30 ans, tourné en 93, part de l'horreur absolue pour dériver vers un bonheur possible. Aujourd'hui, à 71 ans, Rolf de Heer, résigné mais toujours empathique, tire la sonnette d'alarme dans un film post-Covid qui ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'avenir. L'héroïne, personnage fantôme, proche de l'archétype, qui n'est pas construit comme un personnage classique, traverse un paysage dévasté et asséché, évocation en creux du réchauffement de la planète, piste possible parmi tant d'autres. Elle incarne notre regard de spectateur, nos yeux pleins d'effroi et d'admiration, assistant à une extinction de notre race. Une prophétie que le cinéaste, avec un sens inouï de la mise en scène, magnifie la nature, même saccagée comme jamais. Alors, expérience sensitive unique, poème esthétique conviant chacun à y chercher un sens, Survival of the Kindness est aussi un film admirablement réalisé, hein, avec des partis pris audacieux, dont la quasi-absence de dialogue. D'ailleurs, les rares dialogues sont non sous-titrés, hein, donc ça n'a aucune importance. Choix formel et narratif permettant une immersion immédiate si vous acceptez cette proposition de cinéma aussi audacieuse que stimulante. En tout cas, je considère que c'est un des tout meilleurs films de l'année et puis un des rares que j'ai eu vraiment envie de revoir tout de suite après la vision.
Eh bien, il faudra pour ça que tu te rendes dans un des 33 cinémas qui le diffusent en France. Survival of the Kindness, on peut le traduire si en bon québécois, c'est la survie de la bonté. Restons en mode survie avec une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison et qui doit vivre les conséquences d'une cyberattaque qui plonge le pays dans le désert électronique. C'est Leave the World Behind de Sam Esmail.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Je suis allée sur Internet et je nous ai loué une magnifique maison sur la plage. Je me suis dit qu'en réservant et en faisant nos valises, ça éliminerait sûrement les chances que tu refuses.
Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous êtes dans notre maison.
C'est votre maison.
Le film diffusé depuis le 8 décembre sur Netflix, Leave the World Behind, film de Sam Esmail avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali, fait un gros carton dans un grand nombre de pays. Alors en France, il est numéro 1 et vous l'avez déjà peut-être vu. Hein. Et ce film a de quoi attirer. Il est l'adaptation libre d'un best-seller écrit par Rouman Alam qui décrit une cyberattaque de grande ampleur menée aux États-Unis. Alors il n'y a rien d'étonnant que Sam Esmail ait adapté cette œuvre car c'est à lui que l'on doit la série Mister Robot, toujours disponible sur Prime Video. Une série qui, pour la faire courte, hein, met en avant un groupe de hackers qui veut faire tomber une multinationale. Dans Leave the World Behind, qu'on va traduire comme tout le monde par le monde après nous, on ne saura pas grand-chose de la cyberattaque, tout juste apprend-on par divers signes que quelque chose se trame.
On était sur la route pour rentrer chez nous et quelque chose s'est produit.
Vous voulez rester ici? Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes là.
Il faut qu'on les fasse partir.
Il faut qu'il croit que tout se passera bien.
Mais tout se passera bien de toute façon, hein?
Flash spécial.
Nous sommes confrontés à une cyberattaque de grande ampleur à travers tout le pays.
Une famille formée par Amanda Sanford, Julia Roberts et Clay Ethan Hawke décide de s'éloigner de New York le temps d'un week-end. Alors ça aide vraiment Amanda qui, au début du film, dit clairement qu'elle déteste les gens. Hein. Ils bénéficient alors d'une splendide maison au milieu de nulle part, mais à deux pas de l'autoroute et pas très loin de la mer. Mais quand ils vont sur la plage pour profiter du soleil, eh bien un pétrolier vient s'y échouer. Mais il en faut plus hein, pour annuler des vacances, de retour à leur maison de vacances. Donc quand vient le soir, un père et une fille débarquent. Ils invoquent une gigantesque coupure d'électricité à New York qui les a fait se réfugier chez eux. Car oui, c'est leur maison qu'ils prêtent. Et Amanda alors se montre suspicieuse, hein, peut-être parce que le père qui lui fait face est noir, on peut le soupçonner. Et heureusement, ils bénéficient de la lâcheté de Clay, le mari, et peuvent se réfugier au moins pour la nuit dans le sous-sol qui est bien évidemment super aménagé parce que c'est vraiment une remarquable maison. Mais on sent une certaine tension, hein, une situation d'urgence qui ne fait pas forcément tendre les bras. Amanda est prête à éplucher hein, les conditions générales de la réservation. Le lendemain, rien ne va plus, ni téléphone ni internet ne sont disponibles. Le monde se referme sur les hommes qu'il compose et autant dire que là où il se trouve, eh bien, il y en a peu.
Je vous ai dit absolument tout ce que je savais.
Je ne vous crois pas. Je ferai n'importe quoi pour protéger ma famille. Ce que vous faites de votre côté, c'est pas mon problème.
Remonte tout de suite dans la voiture!
Quoi?
C'est ainsi un huis clos que mène Sam Esmail. Alors en termes de mise en scène, la maison de vacances est un laboratoire. La caméra traverse les planchers, s'infiltre dans les trous quand elle ne prend pas de la hauteur. Même si pour montrer la pagaille dans les airs, eh bien le réalisateur a d'abord recours au morcellement, au plan serré, avant de sortir la grosse artillerie. Il n'hésite pas non plus à réaliser des plans renversés ou obliques selon les séquences. La grammaire cinématographique qu'il insuffle à son film n'a rien de l'esbrouf. Cette mise en scène solide accompagne patiemment cette cybercatastrophe dont, je le répète, on saura finalement peu chose. Mais on voit quand même quelques effets, certains amusants ou flippants, c'est selon le tempérament de chacun. Le réalisateur a avoué qu'il avait quand même abîmé un grand nombre de Tesla, et j'avoue que cette séquence est absolument remarquable. teinté d'une certaine ironie. Alors ce n'est pas innocent. Mais ce qui intéresse Sam Esmail, eh bien, c'est ce qui se joue entre les vivants. La mise en scène va également s'échiner à les rapprocher. Le personnage de Mahershala Ali, un homme qui travaille dans un secteur où il doit prédire comment avance le monde pour mieux accompagner les puissants, est remarquable de sensibilité et d'acuité. Sa fille qui livre sa vision sans filtre s'oppose au personnage de Julia Roberts, mais les deux eh bien, sont des phases diverses du désenchantement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film laisse en suspens comment deux familles vont pouvoir se réconcilier et réinviter leur manière d'exister dans un monde qui n'est plus le même. D'un autre côté, on voit un survivaliste incarné par Kevin Bacon qui n'en est pas du tout au même point. La nature ne cesse de faire des appels du pied avec des séquences troublantes où cerfs et biches squattent les jardins jusqu'à devenir anxiogènes. Le monde après nous est une vraie, vraie réussite, faisant coïncider le cauchemar qu'il annonce avec des questionnements de notre époque. Alors il y a une vraie dimension onirique, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont contaminés par quelque chose qui pourrait paraître anxiogène, notamment il y a la tapisserie qui est dans la chambre qu'occupe le couple, donc dans cette maison de vacances. Alors cette tapisserie, elle est un peu particulière parce qu'elle montre des flots relativement déchaînés au début, mais les flots sont quasiment au niveau du lit. Et puis à mesure que le film avance et à mesure qu'on retourne dans cette chambre, eh bien les flots prennent de plus en plus de hauteur et au bout d'un moment, la tapisserie avec ses flots déchaînés, eh bien prennent quasiment tout le mur. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc voilà, ça obéit à une espèce de contamination de plans. Je pense qu'il y en a d'autres comme ça à percevoir. Il faudrait pour ça revoir le film. Et puis il y a aussi donc la présence de ces animaux qui petit à petit eh bien, apparaissent à l'écran comme s'ils mettaient en garde les hommes sur ce qui se passait. Alors ça, il paraît que c'est pris dans le roman hein, initial, et donc alors non seulement il y a des biches et des cerfs, mais il y a des flamants roses qui s'installent dans la propriété. C'est quelque chose d'assez surprenant.
Vous avez toujours pas remarqué ce qui est en train de se passer?
Je sais pas ce qui se passe, mais ça nous implique tous. Je veux seulement savoir.
Non !
C'est quoi la vérité ?
Leave the World Behind est sur Netflix depuis le 8 décembre. Il y restera un certain temps. Vous avez donc tout le temps de le regarder.
Et je vous conseille même d'essayer de voir, essayer, parce que le film doit être difficile à trouver. Il y a un film qui, il y a cette histoire, un précédent en fait, avec un film qui s'appelle Réaction en chaîne. C'était le tout premier film de David Koepp, donc le célèbre scénariste hollywoodien de La mort va si bien, de Jurassic Park. Et c'est un peu le même pitch. Hein. On est au début des années 80, on est au milieu des années 90. Et en fait, il y a une coupure d'eau courant qui met la pagaille dans un bon quartier de banlieue résidentielle américaine, et on se rend compte que dès que les lumières s'éteignent, ben, y a des démons qui vont sortir chez les voisins qui en fait s'aiment pas trop tant que ça.
Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial film traitant de la cybersécurité. C'est parti.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Le principe du blind test, c'est très simple, c'est un extrait de film et il faut évidemment trouver le titre. Donc nous cherchons des films traitant de la cybersécurité, alors de près ou de loin. C'est parti.
De quel genre de programme est-il?
Vous n'avez pas affaire à un programme, mais à un concepteur.
Concepteur?
Exact. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe aussi l'ai-je mené ici. Qu'avez-vous, Sark? Je vous trouve nerveux.
Eh bien, j'avoue qu'un concepteur, ce sont les concepteurs qui nous ont créés. Et les programmeurs qui vous ont écrit.
On ne m'a jamais écrit, moi, car je vaux des millions de leurs années hommes.
Et si jamais j'échouais?
Préférez-vous courir le risque de m'affronter?
Alors, on dirait que c'est une machine qui parle à un humain, qui est transféré dans une machine, dans un programme en tout cas informatique.
Ça me parle.
Un film précurseur, hein, quand
oui,
même.
Oui, ça me...
Alors, nous sommes au début des années 80... À la production, c'est Disney, je crois.
Le Trône Noir.
Oui, ouais. Ah ouais. Trône, c'est ça. De Steven Lisberger, une intelligence artificielle parvient à propulser un concepteur de jeu au cœur d'un système informatique où des entités se combattent dans un jeu qu'il connaît bien pour en être le concepteur. Donc là, bah, c'est un film sur le piratage des données. Deuxième extrait de ce blind test.
J'étais dans un bar, j'ai commencé à parler à une fille, à un type qui a vraiment pas apprécié. Il a commencé la bagarre. Il a fini à l'hosto et j'étais arrêté. J'ai écopé d'une peine de 18 mois à MCI, à Norfolk. J'ai troqué étudiant au MIT contre étudiant gladiateur.
Et après?
Après, je sors. J'ai 22 ans et dans la Silicon Valley, pour un ex-tolard sans le moindre diplôme, il n'y a pas grand-chose. Du coup.
Fraude à la carte bancaire.
Ouais. dans la vente en gros. Pendant 8 ans, ça a marché, puis le FBI m'a topé, et là, j'ai pris 13 ans.
Tu n'as pas de regrets ?
Des regrets ? Non. C'est pas les gens qui ont perdu de l'argent, seulement les banques. J'ai pas piqué de blé aux gens. Je pique pas de blé aux gens.
Non, je parle pas
de... Non, et puis les banques arnaquent tout le monde en permanence, alors je suis pas désolé pour les banques.
Non, je parle pas de ça. Ce qui me désole, c'est ce que tu as subi, toi.
Et ça a été trouvé.
C'est Hacker de Michael Mann.
Oui, film sorti en 2015 avec Chris Hemsworth. Un expert du gouvernement chinois doit collaborer avec le FBI après qu'une centrale nucléaire ait été hackée. Mais il demande qu'un ancien de ses colocataires, quand il était au MIT, sorte de prison, car il serait le seul à pouvoir trouver le pirate coupable de cette action. Donc, là, on voit une vraie attaque et ses conséquences. Je sais que vous aimez beaucoup ce film, tous les deux. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, beaucoup de problèmes avec la vraisemblance de l'histoire d'amour et puis la séquence finale qui, pour moi, est un ratage complet.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, là, dans le mois dans lequel on parle, il y a un montage alternatif qui a été fait, chaperonné par Michael Mann, qui sort en Blu-ray, donc chez nos amis anglais. Ça sort que maintenant parce que le film était un tel bide mondial qu'au début il était complètement enterré, et je suis content, enfin moi, parce que moi j'aime beaucoup le film, je suis content parce que Michael Mann n'a pas lâché l'affaire sur ce film qui, je pense, est un peu maudit alors qu'il est un petit peu toutes ses obsessions, quoi.
Troisième extrait de ce blind test consacré à la cybersécurité.
Nous sommes agents de la NSA.
Ah, c'est vous que j'entends respirer quand je décroche mon téléphone.
Non, ça c'est le FBI. Nous ne nous chargeons pas de surveiller le territoire.
Oui, je sais. Vous renversez les gouvernements, établissez des dictatures.
Non, ça, c'est la CIA. Nous protégeons nos propres communications et nous essayons de pénétrer celles des autres. On est les gentils, Marty.
Bien sûr. Si vous saviez comme ça me soulage, Dick.
Allez, Dick, ça suffit. Pardon.
Si vous changez d'avis...
Ça a été trouvé.
Et c'est donc Les Experts de Phil Alden Robinson, film de 92.
Et un gros indice avec la voix française de Robert Redford. Effectivement, entre piratage informatique et cryptographie, le film illustre la place prise par le codage et la transmission d'informations par voie électronique ou numérique depuis au moins le début des années 80. Un film qui a un peu vieilli. Allez, un nouvel extrait de ce blind test consacré à la cybersécurité.
Mais est-ce que ça tient debout ? Ça a un sens ?
Quoi, debout ? Qu'est-ce qui a un sens ?
Ça !
Non, écoutez, je n'ai malheureusement pas le temps de tailler une bavette maintenant.
Général, êtes-vous vraiment décidé à détruire l'ennemi ?
Un peu, oui.
Et croyez-vous que les Russes le sachent ?
On a été assez clairs, il me semble.
Alors, n'en faites rien. Dites au président d'annuler cette attaque.
Général, ils attendent notre décision.
Beringer, est-ce que vous pensez vraiment que l'ennemi vous attaquerait sans provocation, avec missiles, bombardiers, sous-marins, en ne nous laissant pas d'autre choix que de les anéantir ?
Trouvé.
Alors c'est War Games de John Badham avec une fin que je ne vous spoilerai pas, mais qui est particulièrement bien trouvée.
Film sorti en 83 et toujours visible aujourd'hui avec Matthew Broderick. Croyant jouer à un jeu vidéo, un jeune pirate informatique fait lancer par Whooper, un système informatique de défense, une simulation de guerre nucléaire et manque de déclencher une guerre thermonucléaire globale contre le bloc soviétique. C'est la grosse boulette. Dernier extrait de ce blind test.
Tu l'as programmé pour qu'elle flirte avec moi ?
Si c'était le cas, ce serait de la triche ?
J'en serais pas ?
Caleb, c'est quoi ton type ?
De fille ?
Non, de vinaigrette. Bah oui, de fille. C'est quoi ton type de fille ? Non, mais attends, ne réponds pas. C'est les jolies blagues, disons. D'accord, c'est ton truc, c'est notre hypothèse de départ. Bien. Pourquoi c'est ton truc ? Parce que tu as fait une analyse détaillée de toutes les races et puis t'as croisé les données avec un système de pondération ? Bien sûr que non. Tu es attiré par les jolies blagues, point. C'est le résultat d'une accumulation de stimuli externes que tu n'as sûrement même pas capté quand tu les as captés.
Est-ce que tu l'as programmé pour que je lui plaise, oui ou non ?
Je l'ai programmé pour être hétérosexuel. Ainsi que tu as été programmé pour être hétérosexuel.
Personne ne m'a programmé pour être hétéro.
C'est un choix délibéré, je t'en prie. Bien sûr que tu as été programmé. Par nature ou culture ou bien les deux. Et pour être franc, tu commences à m'énerver parce que là, c'est ton insécurité que j'entends. C'est pas ton intellect.
Trouvé.
C'est Ex Machina d'Alex Garland.
Oui, film de 2015. On entendait Oscar Isaac et Domhnall Gleeson. À 26 ans, Caleb est l'un des plus brillants codeurs de son époque. Le voilà qui remporte un séjour d'une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais là-bas, il découvre qu'il va devoir participer à une expérience troublante, interagir avec le représentant d'une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d'une très jolie femme robot prénommée Ava. Le film illustre les problèmes de sécurité posés par l'intelligence artificielle quand elle prend forme humaine. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc au film sur la cybersécurité. On reste dans l'univers informatique. Méfions-nous de certains followers, ils peuvent mener la vie dure. C'est Follow Dead.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Depuis que t'as rejoint BuzzFeed, tes dessins sont à chier. Ping ! Pourquoi tu vas pas crever en enfer ? Ne me juge pas, faut bien troller les trolls. Waouh !
Alors on avait abordé il y a deux semaines avec Thanksgiving le fait qu'il est difficile en 2023 de réactualiser un genre aussi ancré dans les années 80 que le slasher. Alors de manière générale, le genre du film fantastique et d'horreur, ont ces dernières années du mal à se réinventer, surfant sur des formules déjà éculées et à peine mises à jour. Donc par exemple Conjuring qui vise les sensations de l'exorciste, quand il n'y a tout simplement pas des actes contre nature commis pour des franchises vieilles de 50 ans pour faire tourner artificiellement la planche à billets. On pense à la tristoune nouvelle trilogie d'Halloween où tient de l'exorciste qui vient de subir ses derniers outrages dans un nouvel opus abominable en octobre. Alors au milieu, certains tentent d'être dans le vent en utilisant les dernières technologies comme les réseaux sociaux pour attirer un public plus jeune et essayer de reprendre la figure du croque-mitaine pour le décliner en version 2.0 comme c'est le cas ici dans Follow Dead de John McPhail.
Tu peux me dire comment identifier ce pseudo ?
Tu crois vraiment qu'il y a un conte bizarre qui hante ton appart ?
Follow Dead, c'est en fait Dear David, cher David, dans sa version originale. Les distributeurs devant penser que ce titre aurait probablement conduit des spectateurs en erreur et leur faire croire qu'ils allaient voir un film sentimental, la France a cru bon de faire un très mauvais anglicisme pour souligner l'origine numérique du mal qui hante le film. Alors le follower de la mort, c'est donc ce cher David, un enfant devenu à sa façon une légende urbaine du net qui attaque, attention, les vilains méchants qui mettent des commentaires haineux sur le net. Vous avez déversé en commentaire ou sur un forum votre bile contre quelqu'un comme Adam, le héros du film, et ce même s'il s'agit d'un écart de conduite car d'habitude vous êtes un gentil internaute, le vilain David va vous poster un commentaire et vous autoriser deux questions pour vous dépêtrer de la situation. Alors si vous avez le malheur d'en poser une troisième, il va se matérialiser et vous régler votre compte de façon plus efficace que la suppression d'un compte sur Twitter, pardon X. L'internaute lambda succombe généralement assez facilement, mais notre héros, le naïf et totalement soumis à la société de consommation Adam, est un homme non pas déconstruit mais au contraire augmenté, 2.0 et habile avec les ordinateurs. Il travaille même chez la société BuzzFeed qui est, oh comme par hasard, la société à l'origine de cet original film d'horreur. Adam est donc habilité à comprendre les rouages d'internet, comprendre l'origine du mal, même s'il lui faut quand même une bonne heure quand même, et trouver comment repousser le mal virtuel qu'il attaque de façon bien réelle. Alors au début, Adam est persuadé que le problème vient de lui car il fait de très vilains cauchemars et qu'il se réveille en ayant fait des actions dont il n'a pas souvenir. Alors vous l'aurez compris, Follow Dead, malgré sa devanture hypée branchée, n'est rien d'autre qu'un ersatz des griffes de la nuit de Wes Craven, avec un héros qui confond rêve et réalité, hallucinations et monde réel, et les confusions avec son entourage qui découlent de ses actes non contrôlés. En ce qui concerne la tenue globale du film, on peut dire que le pauvre John McPhail fait ce qu'il peut, mais si on voulait être taquin, nous pourrions dire que nous avons eu un signe avant-coureur, car fail veut dire échec en anglais. Alors au fond, le seul véritable intérêt du film n'est pas tant le film, mais son système de production.
Il n'avait que 10 ans quand sa mère est devenue folle.
Vous avez vu mon fils David, c'est ça ?
Qu'est-ce qu'il veut ?
Demandez-lui vous-même !
Si on avait désormais l'habitude de marques comme Hasbro ou Mattel faisant des films pour surfer sur l'engouement de leurs produits comme les Barbie ou les Transformers, il est plus rare qu'une société comme BuzzFeed investisse le cinéma avec un scénario original pour cacher ce qui est en fait une belle campagne de pub pour leur site mélangeant à la fois information mais aussi et surtout des quantités astronomiques de liens sans aucun intérêt uniquement générés pour faire du clic. Alors on pourrait être surpris du ton assez sérieux abordé par l'entreprise sur la vacuité de ses publications, mais bon, il faut se rappeler qu'en Amérique, c'est une stratégie commerciale que de faire de la pub semblant être consciente d'elle-même pour mieux vous débourser. Personne n'a oublié le tour de passe-passe du film Barbie qui a si bien marché que le film reste à cette heure-ci le premier du box-office mondial de 2023. Non, ce qui fait que Follow Dead est un cas très intéressant malgré tout, c'est qu'il s'évertue à être le chantre d'une horreur 2.0, d'être un film de genre du monde nouveau alors qu'il peine à émuler les poncifs les plus éculés du monde d'avant. C'est un marqueur temporel qui sera bien sûr assez vite oublié, mais que les historiens du genre pourront ressortir comme Ghost in the Machine, Brain Scan, Le Cobaye 2, Track sur Internet ou encore Stay Alive, pour radiographier une époque et son utilisation que l'on pensait pertinente et influente de la technologie et qui livrait des films déjà ringards sur le sujet. L'intéressante leçon que l'on peut en retirer, c'est de repenser au cas du projet Blair Witch en 99, qui fut un carton pertinent en utilisant Internet comme véhicule de sa légende plutôt que comme finalité de sa mise en scène, elle résolument intemporelle car touchant à l'inconscient le plus universel qui soit.
Follow Dead est en salle depuis le 13 décembre. C'est bientôt Noël, parlons maintenant des dessins animés.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Après Wish de Disney, Migration d'Illumination, le grand magasin dessins animés japonais, voici encore deux dessins animés qui sortent sur les écrans le 13 décembre. D'un côté, Sirocco et le Royaume des Courants d'Air de Benoît Chieux et de l'autre, Les Inséparables de Jérémy Degrusson. Ces deux dessins animés sont européens, le premier français et l'autre belge. Commençons par le plus mainstream, Les Inséparables, dont l'histoire a été écrite par les scénaristes de Toy Story, premier épisode.
Dans un petit théâtre de Central Park, lorsque le rideau se ferme, les marionnettes prennent vie.
Ça y est, les amis, on est tranquille.
Et voici Don, le rêveur de la troupe, qui aimerait découvrir le monde.
Je voudrais rien qu'une fois être le héros. J'ai décidé de faire quelque chose de ma vie.
Je lui donne trois quarts d'heure, maximum.
L'action se déroule à Central Park. Dans le vieux théâtre, il y a Don, une marionnette qui en a assez de jouer les rôles de bouffon et qui rêve de la grande aventure, et qui un soir décide de la vivre ou... plus exactement de la tenter. Il rencontre sur son chemin DJ Doggy Dog, un chien en peluche censé être le roi de la rime, sauf qu'il ne connaît qu'un seul début de chanson, celui qu'on a mis dans sa puce. Les deux vont s'entraider, se quitter, se retrouver, d'où le titre, hein, Les Inséparables. Un buddy movie qui oscille entre la 3D et la 2D. La 3D appartient à la réalité, quand la 2D illustre ce que voit Don, qui se fait appeler Don Quichotte, et qui transforme un moulin à vent en dragon et une bouche d'égout en baleine. Hein. Doggy Dog étant son pancho.
Non mais attends, je t'ai déjà vu. T'es dans la pièce de théâtre. Moi, je suis DJ Doggy Dog.
Je suis DJ Doggy, je suis pas un bandit.
Mais mes amis m'appellent... En fait, j'ai pas vraiment d'amis.
Et si tu venais avec moi ?
Vivant, brillant, vivant, quand on...
Don, t'as entendu ?
Et comment ? Quelqu'un semble courir un grand péril. Et n'est-ce pas magnifique ? Le monde va enfin être témoin de mon héroïsme. Ya, 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 ya,
wow.
Ya.
Le mec est complètement secoué, en fait.
Ce film d'animation visible à partir de 5 ans, j'imagine, met en scène deux anti-héros qui vont se dépasser et qui interrogent le courage, la soif d'émancipation, l'imagination, la créativité et qui embrassent le thème de l'amitié. Ça se regarde avec plaisir, même si l'humour est peut-être en deçà de ce que l'on peut attendre eh bien, d'une telle production.
Il y a des ratons laveurs, des petits gars qui me charrient et mon pote part en vrille, ça on l'a tous compris.
Passons à Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, réalisé par Benoît Chieux, à qui l'on doit Tante Hilda. Le film a fait l'ouverture du Festival international du film d'animation d'Annecy. Il nous propose un voyage dans l'imaginaire. Deux sœurs se retrouvent plongées dans le Royaume des Courants d'Air, un pays qu'elles connaissent bien, puisque c'est celui de leur livre favori. Il a été créé par une amie de leur mère qui justement les gardait avant qu'elles ne basculent, elles disent, dans un pays merveilleux.
Mais c'est quoi ça ? Je me sens trop bizarre!
Pas de 3D ici, hein, c'est le dessin et les grands aplats qui prennent toutes leurs dimensions. Le réalisateur se plaît à animer un monde fait de vent, donc souvent en mouvement. Un univers dans lequel il a supprimé les ombres propres comme portées pour s'en tenir au jeu de couleurs et déplacement de forme. Ce choix esthétique radical est propice à nous emmener dans un monde bien proprement merveilleux, mais pas sans danger. Avec des règles étranges, hein, les deux filles s'y trouvent punies. L'une doit servir une cantatrice quand l'autre doit épouser le fils du maire. Et comme elle le précise, on ne marie pas des enfants. Non mais heureusement, elles auront un allié et vont partir à la rencontre de Sirocco, qui est ancré dans ce monde. Et on découvrira pourquoi son souffle se transforme parfois en tempête.
L'aventure, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie jamais.
Mais on va où, là ?
Nous allons chercher la seule personne du royaume capable de vous aider à rentrer chez vous. Tous les mots murmurés dans le creux des oreilles finissent ici, à la limite du monde. Chut, écoutez.
Sirocco et le Royaume des Courants d'Air est à contre-courant des grandes productions mainstream. Le concepteur fait le pari de plonger le public, enfant comme parent, dans un monde merveilleux avec ses propres codes, en laissant des clés ici et là. Le vent est traité comme une puissance météorologique, hein, mais aussi comme le souffle, celui qui permet de parler, de chanter, et aussi ce souffle de la vie, dans une imagerie qu'on pourrait presque qualifier de chrétienne. Avec son format de 1h20, Sirocco et le Royaume des Courants d'Air est sans doute visible à partir de 4 ou 5 ans.
Alors,
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, vous aurez chacun un film.
Moi ce sera Les Colons.
Et moi la suite plus ou moins attendue de Chicken Run qui a attendu comme 20 ans pour avoir une suite.
Encore les enfants, à la semaine prochaine.
Est-il juste que tout individu participant à cette procédure se voit décerner une adresse IP unique comme celle de nos portables ou de nos ordinateurs ?
C'est un peu ça, mais le contrôle du sujet est réduit aux stricts paramètres de nos environnements de jeu. Dans Société, que vous connaissez, une fois qu'un des acteurs quitte le plateau, il est totalement libéré de l'emprise et de la surveillance de son gamer.
Oh, en voilà une bonne nouvelle.
Pour certains.
This
sûrement.
Is Cinerama. Cinerama. Cinerama.